première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h. Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire.
Espace comme monstration, espace comme atelier. Empreinte jusqu'au 10 février.
André Siegel.
Au Botanique à Bruxelles, Ernest Pignon Ernest. Avec André Siegel et Ernest Pignon Ernest.
On ne voit pas beaucoup d'expositions d'Ernest, mais il a une autre activité qui est énorme. Il illustrait des bouquins, il fait beaucoup d'œuvres pour des associations, pour plein d'actions qu'on ne voit pas vraiment dans le grand public. Il a beaucoup de bouquins.
Espace comme atelier, à la Galerie Patrick de Rome à Bruxelles, jusqu'au 9 février, Jacques Villeglé. Les murs ont la parole. Avec Laura Neve, Jean Marchetti et Jacques Villeglé. Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58 ?
Absolument.
Petite place de Belgique.
Les Kaliskis.
Mon œuvre.
Allez, ma cinquième.
C'est une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture.
Allez, Chinsky.
Authentique, me tento, me tento, me tento, stélé.
Le monde invisible.
Le monde invisible est une émission de Thierry Genicot. Le monde invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
La manière de travailler d'Ernest, c'est vraiment de faire des esquisses, d'abord des petites esquisses préparatoires, simplement un trait. On voit ça, par exemple, quand derrière la cabine, derrière les vitres, dans la série des cabines, vous allez voir une petite esquisse qui, je trouve absolument fabuleuse, qui est juste un coup d'aquarelle, comme ça, qui donne une forme. Et à partir de là, il développe la position, le mouvement, la position d'un bras. Et c'est vrai que sa facture est réaliste. Mais elle n'est pas hyper réaliste. Il faut qu'il sente le mouvement, il faut qu'il sente l'expression.
Je ne fais pas une exposition sans lui. Un musée m'invite. Souvent, des musées disent « Oh, mais on a quelqu'un pour l'accrocher. » Je ne peux pas le faire sans lui.
Et son rapport à l'espace public, quel est-il ? Il est essentiel, c'est sa simèse.
Alors, Ernest, quand il travaille, son lieu d'inspiration, c'est d'abord le mur, l'endroit. C'est-à-dire qu'il ne va jamais faire un dessin en fonction du mur, de l'endroit où il va coller. À Naples, il a choisi les endroits. Pour Pasolini, il a choisi les endroits. C'est-à-dire qu'il a pris les endroits symboliques. Par exemple, pour Pasolini, il a pris les endroits symboliques de la vie de Pasolini, là où on l'a retrouvé mort, là où on a fait son discours funéraire, là où il vivait régulièrement, où il prenait un café et tout ça. Donc le lieu est déjà important, mais la simèse, c'est-à-dire l'endroit où il va coller, est encore plus important. Quand il choisit un endroit, c'est vraiment à 5 cm près, en collant son image, pour qu'elle s'intègre dans le lieu.
C'est un grand professionnel. Là, il a fait le tour avec l'équipe d'éclairage du Botanique. Il leur dit « Ah non, mais tu mets plutôt un 18 ou un 24 ». Vous voyez, c'est-à-dire qu'il sait.
Quand vous voyez le parcours de Rimbaud de Charleville-Mézières à Paris, vous allez voir des photos qui sont absolument fabuleuses où on voit tout d'un coup un graffiti « Je t'aime » et il met l'image à côté. Quand il y a de l'autre côté ce même personnage de Rimbaud, qui est à côté du rond et de l'anarchie. Voilà, c'est tout l'univers d'Ernest, c'est-à-dire la poésie, et puis la politique et le social. Dans l'expo, tout son travail est conditionné par le support qu'il va trouver. Sans trouver un beau support, il ne fera pas de collage, il ne fera pas le travail. parce que c'est vraiment très important, cette relation à l'endroit et au mur. En plus, l'avantage d'Ernest, c'est, je pense, le père du street art français, bien qu'il, dans sa modestie, dit non, voilà, il est relativement modeste à ce niveau-là. Mais je pense que c'est vraiment le père du street art. Et quand il a commencé, il a fait ses premières œuvres au pochoir. Et ensuite, le pochoir était un peu brut à l'époque. Maintenant, on peut faire des pochoirs un peu plus sophistiqués, mais dans le temps, c'était brut, c'était découpé. Et avec des collages en sérigraphie, ça a un autre avantage. Le dessin est plus expressif, est plus fort, est plus détaillé. Mais en plus, et c'est là où Ernest se différencie de beaucoup de gens du street art, son travail n'abîme pas les murs. C'est-à-dire, il se détruit, il disparaît par la nature, par les hommes, par le vent, par la pluie. Ses dessins, ses sérigraphies, et même de temps en temps ses dessins, quand il les colle, sont sur du papier journal. Donc avec une fragilité pour le collage, mais aussi une fragilité pour le temps. Et donc, c'est toujours aussi ce respect par rapport au bâtiment, par rapport au lieu, de ne pas laisser une trace indélébile et qui abîme le lieu. C'est ce respect par rapport au bâtiment, par rapport au mur, par rapport à la beauté du mur. Parce qu'il trouve que les murs sont d'une beauté assez incroyable. Dans l'exposition ici à Bruxelles, il y a une œuvre d'un mouton qu'il a fait à Pâques sur un bâtiment que les Grecs, les Romains, les Espagnols et les Italiens ont construit l'un sur l'autre. En 3 mètres de mur, il y a 2000 ans de civilisation assez incroyable. Et il a collé à cet endroit. Et cet endroit, au bout de quelques jours, au bout de peut-être même d'un mois, est redevenu cet endroit qu'il était historiquement. Donc il n'y a pas de dégradation, il n'abîme pas le lieu, il respecte le lieu.
Espace comme monstration, espace comme atelier. Empreinte, jusqu'au 10 février, au Botanique à Bruxelles, Ernest Pignon-Ernest, avec André Siegel et Ernest Pignon-Ernest. Quel est votre rôle quand vous travaillez ensemble? Vous êtes, entre guillemets, assistant?
Voilà. Mon rôle dans le travail d'Ernest est relativement modeste. Je ne sais pas peindre, je ne sais pas dessiner, voilà. Je n'ai pas de culture artistique. Mon rôle dans les accrochages, parce qu'en fait, je ne travaille pas chez lui à l'atelier. Quand il est à l'atelier, il travaille seul. Il a d'autres techniciens qui travaillent pour ses tirages. Enfin, voilà. Moi, je ne fais que le montage de ses expositions. Mon rôle dans l'exposition, c'est d'accrocher au plus juste ces tableaux, c'est-à-dire de donner le rythme de l'exposition. Ernest définit l'ensemble des thèmes qu'il va exposer, on les met en place, on les distribue, et après c'est un dialogue entre lui et moi pour le mettre à la bonne hauteur, à la bonne distance, les bonnes associations, voilà, tout mon travail c'est ça.
Le travail que j'ai fait sur les grandes mystiques, je les ai installées dans de l'eau. Et tout le monde a cru que c'était un choix de décor. Pas du tout, c'est parce qu'à la lecture des textes de Thérèse d'Avila, de Madame Guyon et tout ça, toutes ces femmes ont des métaphores liées à l'eau. Elles se fondent dans de l'eau. Et du coup, j'ai eu récemment la confirmation de ce repère. Julia Kristeva dit de Thérèse d'Avila, « Cette femme est un ruissellement constant. » Voilà. Donc mon idée de l'eau dans mon installation est née de la lecture, et pas du tout on me dit, oh c'est une belle idée, ça fait un reflet.
Et après, dans ma collaboration avec Ernest, se situe à un autre niveau. Il a créé une exposition qui s'appelle Extase, qui est une installation avec un bassin d'eau, avec avec de la lumière, avec un jeu de lumière. Et mon travail, c'est d'installer ce bassin d'eau, de faire toute la partie technique de cette installation. Mais je fais un peu la lumière, je fais des réglages. C'est un dialogue toujours avec Ernest. André Siegel.
Pasolini nous annonce le... Vous savez, il est mort avant Berlusconi, mais il annonce la télévision de Berlusconi. Il dit dans les écrits corsaires, la télévision va faire plus de mal à notre culture que n'a fait le fascisme. Et c'est vrai, voilà. Il voit venir cette déshumanisation, cette acculturation que porte cette forme de capitalisme basée sur la consommation et voilà. Et c'est la Sibylle, quoi. Il nous annonce, il voit venir tout ça, il nous alerte. Et mon dessin, là, c'est un peu ça. C'est un peu comme s'il venait nous dire « Qu'est-ce que vous avez fait de ma mort ?» Je voulais faire une image qui dise ça.
André Siegel, nous sommes au Botanique.
Empreinte. Alors, dans cette exposition, il y a des œuvres très anciennes et des œuvres très récentes.
Je ne peux pas faire des choses à chaud. Je me méfie beaucoup. Quand des artistes ont collé des trucs le lendemain des attentats au Bataclan, ça m'a contrarié. J'ai trouvé ça... Je ne sais pas comment le dire, mais je pensais que c'était malvenu, que c'était de... Oui, il y avait une obscénité. Vous savez, je suis de Nice, il y a eu l'attentat terrible sur le... Deux jours après, la municipalité recevait des propositions de sculpture et tout ça. C'est indécent, quoi. Indécent. Ils m'ont dit ça à la mairie. Ils croulent sur les propositions d'artistes qui viennent. Je ne peux pas faire des choses à chaud. J'ai besoin de lire, de réfléchir, de... Voilà. Tous mes travaux sont le fruit de longues élaborations.
L'exposition commence par un dessin qu'il a fait quand il était à l'armée en Algérie, sur un journal algérien. Et c'est le taureau du Guernica. C'est vraiment le tout début de son travail et c'est de la peinture à la gouache et il a retrouvé ça, il conserve ça comme une icône, ce qui est tout à fait normal.
Vous savez, tous les lieux où je mets des images, j'y suis allé à toutes les heures de la journée, je sais comment le soleil vient dessus, je sais comment on arrive vers ce lieu, comment on va le découvrir, la façon de le découvrir, et je sais bien surtout la couleur, la texture du mur et tout ça, donc je sais vraiment tout ce qui se voit. Tout ce qui se voit et à toutes les heures, je l'ai assimilé. Je reste devant, je marche vers, vous voyez, j'ai une appréhension physique, sensuelle, charnelle. Et simultanément, j'apprends la mémoire enfouie de ce lieu et sa force symbolique, son histoire. Et mon image s'élabore, nourrie de ces deux choses, de ce qui se voit et de ce qui ne se voit pas. Et sa présence doit venir comme... réactiver le lieu ou le perturber, ça peut contribuer à le connaître mieux, mais en même temps à le secouer, quoi. Ouais, voilà. Vous voyez, je veux dire, il faut que la présence de mon image fasse du lieu un espace plastique, fasse un travail plastique, comme Buren, comme des gens comme ça, travaille le lieu plastiquement, mais il faut que ça travaille le lieu aussi au niveau de son sens, de sa symbolique. Voilà.
Ensuite, elle continue par l'œuvre qui a provoqué vraiment le déclic chez Ernest. C'est cette trace d'un homme carbonisé pendant la bombe atomique à Nagasaki. Ces deux premières références de son travail. Ensuite, il y a tout le côté social avec à Grenoble sur les accidents du travail.
Donc le pérenne contre l'éphémère.
Il n'y a pas de vrai éphémère, quoi. Je parle de choses disparues, mais en parlant, j'affirme qu'il résonne en nous. Je fais en sorte, quand je travaille dans un lieu, que la sensation du moment soit inséparable de l'histoire du lieu, de son passé. Vous voyez ?
Empreinte. Jusqu'au 10 février, au Botanique à Bruxelles, Ernest Pignon Ernest.
Un danger de notre société, cette acculturation... C'est cette amnésie que porte cette société rapide, de consommation rapide. Je suis athée à un sacré laïc qui est la conscience de ce qu'il y a eu avant nous, de notre histoire, la conscience de notre savoir qu'on s'inscrit dans l'histoire, la conscience qu'il y a eu avant et de ceux qui seront après. Vous voyez, je veux dire, ça, c'est beaucoup chez Pasolini. Il y a toujours dans son œuvre en permanence une interrogation sur l'histoire et l'histoire de l'art. Et aussi, ce que je disais à propos de mon appréhension des lieux, il y a chez lui un regard, une approche très sensuelle, très charnelle des lieux et des gens. À un moment, j'ai cru que c'était une contradiction, mais ce n'est pas le cas. C'est cette appréhension charnelle qui révèle la dimension sacrée qu'il y a chez chaque individu. Et ça, c'est chez Pasolini. Essentiel.
Vous redoutez cette amnésie
En voir les séquelles qui sont élues en Italie, ou en Hongrie et tout ça. Mais pour l'Italie, comme je suis attaché à l'Italie, je suis consterné qu'un peuple qui a cette culture soit dévoyé de cet ordre. Quoi. C'est inquiétant. Comme personne ne pouvait penser qu'un peuple qui avait l'immense culture du peuple allemand pouvait devenir nazi. Ouais, vous voyez, c'est incroyable. Donc on voit que c'est un danger terrible.
Sur la commune, quand il a collé sur les marches du métro Charonne très tôt le matin avant l'ouverture du métro, des dizaines de gisants, et les gens le matin, la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'est marcher sur ces gisants. On rappelle quand même que à Charonne, il y a eu officiellement 20 morts, officieusement un peu 5 fois plus ou même un peu plus, on ne sait pas le nombre. Ensuite, il y a les cabines derrière la vitre où c'était un travail sur les sans-abri avec tous ces gens qui se réfugiaient dans les cabines. Et le choc que provoquait à l'époque, quand on avait encore des cabines téléphoniques, cet homme qui était accroupi ou debout et qui était complètement blotti et de taille réelle. Et c'est très impressionnant quand on voyait ça dans la rue.
Mais les figures, je repensais... L'Affortement, Jean Genet, la prison, Lyon, la prison.
Mais vous voyez le travail de la prison. J'étais allé dans cette prison parce qu'il y avait un atelier peinture. Et les détenus avaient aperçu des livres sur mon travail et m'avaient fait demander par les autorités de la prison si je pouvais aller les voir. Donc je suis allé quelques fois dans la prison. Et un animateur m'a demandé de venir. Et quand la prison a été vide des détenus, il m'a dit, toi qui travailles sur la mémoire, tu veux voir la prison vide. Je suis retourné, j'ai vu la prison. Je savais que Barbie, nazie, avait torturé des gens dans cette prison. Et j'apprends qu'elle va être détruite, elle va disparaître complètement. Et j'ai eu peur de cette amnésie. Et donc j'ai fait mon travail. J'ai retrouvé qui ? Marc Bloch, l'historien des annales, certains résistants. J'ai retrouvé des noms écrits, j'ai retrouvé leur famille, vous voyez ? Et j'ai retrouvé leur visage, et j'ai replacé en photo. J'ai fait ces photos, beaucoup plus que ceux qui sont dans l'exposition, pour lutter contre cette amnésie. J'ai contribué d'une certaine manière, vous voyez, parce que Émile Bertrand et Simon Fried... J'ai trouvé une plaque cassée par terre dans la prison. Ça, c'est ce qui a tout déclenché. Avec écrit « Tombé sous les balles nazies ». Je me dis, c'est oublié ça. C'était terrible, ça m'a choqué. J'ai noté les noms et j'ai retrouvé la famille. J'ai trouvé la famille. Et la nièce vient, elle me dit, mais vous savez, il n'est pas tombé sous les balles nazies, il a été arrêté par la milice française et guillotiné dans la prison par un bourreau français. Voilà. Et donc j'ai fait leur portrait, je les ai remis là, et du coup ils ont changé la plaque dans la prison. Ça a lutté contre le mensonge.
Ensuite il y a ce travail qu'il a fait en Afrique du Sud sur le sida, c'est Mandela qui l'a sollicité. Il y a un travail sur Jean Genet, qui est aussi une de ses sources d'inspiration, ce poète, cet écrivain très fort, violent, qui a été en prison. Il y a un dessin, une photo, où il y a une relation entre le travail de Jean Genet et le travail qu'il a fait à la prison Saint-Paul à Lyon, où beaucoup de gens ont été tués, martyrisés, où Barbie a sévi, il y a eu des exécutions en masse, voilà.
Ah oui, le travail de la prison, c'est complètement ça. C'est vraiment effrayé par cette amnésie. Je dis, on va oublier, ils vont raser la prison, on oubliera. On oubliera qu'on a trouvé dans cette prison le fils du député de mon quartier. Il est mort ébouillanté dans une baignoire par les nazis parce qu'il était résistant. Donc j'ai fait son portrait et tout ça, voilà. Comme je suis athée, j'ai pas de saint, mais les poètes me jouent ce rôle d'incarnation de valeur, vous voyez. J'ai travaillé au Chili, Pablo Neruda incarne le Chili, vous voyez, presque physiquement d'abord, il est tellurique, son corps, il est le Pacifique et la Cordillère, et il incarnait la résistance contre la dictature. Robert Desnos qui meurt, je suis allé à Térésine dans le camp où il est mort, Robert, ils incarnent leur temps, Antonin Artaud encore plus que les autres, Mayakovsky, il incarne dans son œuvre tous les espoirs de la révolution bolchevique, les poèmes, il fait des peintures, les fenêtres rostas dans les rues, des grands poèmes, des pièces de théâtre, et il porte tout ça, et son suicide dit le stalinisme, la bureaucratie, l'échec de la révolution, vous voyez, il incarne. Voilà, et les poètes très souvent incarnent leur temps de cette manière et l'expriment.
Mais à refaire le portrait de quelqu'un qui a été torturé, vous réincarnez en quelque sorte le qui il a été.
Ouais, il faut penser à lui. C'est plus difficile pour les gens anonymes parce que pour les poètes, c'est un travail que je fais beaucoup et qui me plaît moi intellectuellement. J'ai beaucoup travaillé sur Desnos, parce que c'est un de ceux que j'admire le plus, hein, Desnos, Nerval. Je dessine jusqu'à ce que je sois libéré du problème de la ressemblance, que je l'ai assimilé, que j'ai plus de problème en disant « Oh, j'arrive pas à faire que ça lui ressemble », vous voyez, que je comprenne son visage, ce qui s'est passé avec le temps. Maintenant, on a la chance, depuis quelques années, avec Internet, c'est qu'on trouve des photos des types à 15 ans, à 20 ans, à 40 ans, et on voit comment le temps les a sculptés, comment leur œuvre, c'est évident, vous voyez, pour Antonin Artaud, sa gueule dans la Jeanne d'Arc de Dreyer, et comment après il finit rongé par la drogue, la maladie, le cancer, et tout ça. Et donc, je travaille, j'essaie d'assimiler donc, le visage, comprendre, et après, essayer de mettre ce que je sais de leur œuvre dedans, quoi, qui est alors plus difficile. C'est subjectif, quoi, voilà. C'est pour ça qu'au fil des années, des fois, je change. Le portrait de Rimbaud que j'ai mis là, dans l'exposition, n'est pas le même que celui que j'ai collé il y a 40 ans. J'ai plus du tout la même image d'Arthur Rimbaud. Ernest Pignon Ernest. Je répète, je me répète.
Il y a un travail que moi je trouve très très fort et dont une photo, moi c'est vraiment quelque chose d'incroyable, c'est un travail sur l'avortement en 82 pour soutenir Simone Veil pour l'abolition de la pénalisation de l'avortement. On voit une photo où il y a ce dessin collé, une femme les jambes écartées qui saigne et on voit une femme marcher tout droit, les yeux droits et l'homme qui regarde ça sans oser regarder. Je trouve que cette photo est très forte. Les aborigènes.
Espace comme monstration, espace comme atelier.
Les immigrés. Alors là, les émigrés, il y a un dessin qui est absolument fabuleux. On voit ces gens qui sont cachés dans les soupiraux pour pouvoir vivre. Il y a les expulsions, et voilà, je revenais à ce travail sur les expulsions. Quand ils ont construit la tour Montparnasse, ils ont détruit tout autour. Il y a des dessins absolument fabuleux, des collages. Et après, on voit la destruction de ces immeubles, où là, vraiment, on voit l'utilité du mur. Il y a encore des endroits où il y avait des petits objets, des enfants dans les bâtiments, le papier peint. C'est vraiment un endroit très très fort et on voit ce collage des expulsions parce que lui aussi dans sa famille ça, il a été expulsé de l'appartement où il était avec ses parents à Nice, donc tout ça c'est des choses aussi très très, comment je veux dire, qui le touchent beaucoup.
Empreinte jusqu'au 10 février au Botanique à Bruxelles, Ernest Pignon Ernest avec André Siegel et Ernest Pignon Ernest.
Et puis à l'étage, il y a d'un côté tout un travail sur Naples, avec des dessins absolument fabuleux, avec une sérigraphie qu'il a posée, tout le côté caravagien, il y a un David et Goliath. Enfin, et de David et Goliath, vous allez voir dans ce dessin, il y a un petit rajout où il y a justement déjà cette idée d'une deuxième main qui tient Pasolini. Donc il y a toujours cette référence de Naples, Pasolini, enfin de tous les poètes. Et après, en face, de l'autre côté, il y a tout le côté poésie, littérature, avec Mahmoud Darwish, avec Mayakovsky. Il y a Artaud à Ivry, qui était juste à côté de chez lui, où il y a des gravages dans le mur. Pasolini, tous les poètes avec qui il a travaillé, Pablo Neruda quand il était au Chili, où il a fait des collages très sauvages. Donc voilà, c'est une petite sélection de ses œuvres, mais voilà, on ne peut pas tout mettre dans une expo comme ça.
Espace comme monstration, espace comme atelier. C'est pas la première fois que vous venez à Bruxelles, hein ?
Non, parce que je connais bien la Belgique au point de vue marchand de tableaux. J'ai travaillé en verre, mais moins ici, sauf pour des expositions de groupe.
Hein. Espace comme atelier, à la Galerie Patrick de Rome à Bruxelles, jusqu'au 9 février, Jacques Villeglet. Les murs ont la parole. Avec Laura Neve, Jean Marchetti et Jacques Villeglet. On est à la galerie Patrick de Rome. Laura Neve qui expose Jacques Villeglet.
Il est essentiellement connu effectivement pour ses affiches La Série qui commence déjà en 1949, qui commence à ramasser à Paris avec Raymond Hinze. Ils travaillent au début ensemble à repérer les affiches lacérées dans le paysage urbain. Pendant quelques années, ils vont travailler en étroite collaboration. Et puis après, Raymond Hinze va partir vers d'autres voies, mais Jacques Villeglet va vraiment construire toute une carrière autour des affiches lacérées, qui sont pour lui une façon d'explorer une alternative à l'abstraction qui, dans les années 50, prend de plus en plus d'importance, et surtout dans les années 60, et à la figuration classique. C'est une manière de capter le réel en limitant le rôle de l'artiste et en utilisant des objets ordinaires. Dans cette optique-là, qu'il s'inscrit dans le nouveau réalisme. En 1960, il signe avec Restani le manifeste du nouveau réalisme. Et donc, il est parmi les premiers artistes qui s'engagent dans cette voie. Déjà en 1958, il signe un texte qui s'appelle « Les réalités collectives » et qui préfigure en fait ce manifeste du surréalisme. Il y a déjà cette idée de limiter le rôle de l'artiste, de questionner le rôle de l'artiste et de dépersonnaliser en fait ce rôle-là, de travailler à la base d'objets du quotidien et sans intervention. Après, bon, bien sûr, il y a un cadrage, il y a un choix esthétique qui est quand même présent, mais ce n'est pas ce qui prime au premier abord.
Le Monde Invisible est une émission de Thierry Genicot. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Paris était la capitale de l'affiche. Hein. Là, il y en avait vraiment beaucoup. Ça a disparu, la télévision a fait. Et puis, il y a eu Malraux qui s'est mis à nettoyer tout Paris. Et donc, les palissades, elles étaient supprimées.
Par ailleurs, il a aussi construit tout un travail à partir des années 70 qui s'appelle l'alphabet sociopolitique. Il avait en fait repéré dans le métro parisien un graffiti autour du nom de Nixon qui était en visite à Paris en 1969. Ça lui a inspiré de construire un alphabet sociopolitique avec des idéogrammes, des symboles qui soient religieux, sociaux ou politiques, et construire un véritable langage à partir duquel il écrit des textes littéraires, poétiques ou à caractère plus politique.
Et Laura Neve, Jacques Villeblay, me dit que votre démarche s'apparente à celle d'un archéologue.
Oui, parce que de tous les affichistes, je suis le seul à avoir fait vraiment une grande œuvre à longue durée, parce que je connaissais l'histoire de l'affiche, je connaissais son évolution. Donc, je savais que ce n'était pas un coup dans l'art, mais que ça évoluerait. Donc, j'économisais même l'angoisse créatrice, parce que tous les autres travaillaient pour moi, ils transformaient. Au début, vous voyez, il y avait beaucoup de lettres et peu d'images. Après, la couleur est arrivée. Les couleurs se sont améliorées. Les bleus, en 1940, étaient un peu gris. Et après, ils ont bleu électrique. J'ai prévu que j'aurais une évolution en fonction des progrès de l'affiche, de l'imprimerie, de la lithographie, etc.
Vous avez cité le nom de Pierre Restany, Laura Neve.
C'était un critique d'art qui s'est intéressé à ces artistes tout début des années 60 et qui convoque les artistes dans l'atelier d'Yves Klein en 1960 pour signer le manifeste du nouveau réalisme. Et il va soutenir ces artistes, les promouvoir, et puis toute une série d'artistes, pas forcément uniquement dans la vague du nouveau réalisme, c'est surtout pour ça qu'il est connu, mais aussi d'autres artistes dans le retour de la figuration à partir des années 60, 70 et 80.
Donc, votre atelier, c'était la ville.
L'atelier était la ville. Mon atelier, c'était simplement comme un atelier d'artisan. Je n'avais plus qu'à maroufler sur toile. C'était l'œil qui comptait plus que le coup de patte, le geste était anonyme. Bien entendu, une affiche, j'étais le créateur, c'est la composition. Je trouvais même quelquefois le nombre d'or dans les affiches. Il n'y avait pas besoin de calculer. On voyait tout de suite le carré et puis la diagonale du carré. Si je la faisais tomber, eh bien j'avais le rectangle. Donc c'était le dieu hasard qui était celui qui me conduisait dans mon travail.
Vous avez cité comme artiste Yves Klein. Qui d'autre ?
Il y avait aussi une série d'affichistes, Mimmo Rotella, François Dufresne, qui faisaient aussi des affiches, mais qui n'ont pas persévéré dans cette voie-là comme Jacques Villeglay. Il y avait César, Spoerry, Nikita Saint-Phal, Armand. Tout ça sont des artistes qui ont travaillé autour de ce nouveau réalisme et dans cette même vague.
Mais quand vous dites Jacques Villeglay, le hasard, il y avait quand même les promenades, le repérage. Comment ça se passait ?
Oui, bien entendu, j'ai des bonnes jambes, j'aimais marcher, donc pendant mes promenades, je pouvais travailler en même temps. La promenade, c'était pas simplement une détente ou un loisir, c'était tomber sur quelque chose de nouveau ou d'intéressant. Quand une série, j'avais des moments de série, eh bien j'arrêtais presque volontairement parce que ça devenait trop facile et j'attendais l'évolution qui arriverait sur les palissades. comment je les emportais ? Roulés sur l'épaule. J'étais assez costaud. Hein. J'ai fait beaucoup de films, des petits courts-métrages, parce que prendre une affiche, quand j'avais un caméraman, c'était dans la rue. Le cinéma, c'est du mouvement. Donc la série des affiches, c'est exactement ce que demande un caméraman, parce qu'il faut créer du mouvement. Je parlais le moins possible et j'agissais. Et alors je me voyais comme Marc Sennett, j'aurais voulu monter au haut d'une palissade et me glisser dans les affiches, ça aurait été presque possible.
Alors vous dites Armand, on pense aux instruments brûlés, à César, aux expansions de mousse, liquide symphale qui est présente à Mons dans une exposition connue pour ses nanas. Quand vous me dites tout ça, je pense aussi à Yves Klein, qui était soucieux de la caméra. Hein.
Oui, alors Yves Klein, c'était le contraire des affichistes. Hein. Lui, il faisait tomber de la poudre bleue sur un vernis. C'est-à-dire, ce qui nous rejoignait, c'est que on ne voyait pas la trace de la main de l'artiste. C'était simplement conceptuel. Il faisait tomber sa poudre. Donc, il y avait un certain mysticisme chez Yves Klein. C'est ça qui pouvait nous séparer. Il était rose-croix, etc. Tandis que les affiches, c'est le dieu hasard. Hein. C'est là où on aurait pu se séparer. Mais on avait le même âge, le même marchand de tableaux, et ce qu'il faisait, comme ce que l'on faisait, était différent du reste.
Espace comme atelier. À la Galerie Patrick de Rome à Bruxelles, jusqu'au 9 février, Jacques Villeglet. Les murs ont la parole. Avec Laura Neve, Jean Marchetti et Jacques Villeglet.
Le nouveau réalisme est le dernier mouvement en isme qui existe. Vous voyez, et ça date de 1959. On dit 1960, mais c'est en 1959, j'avais 33 ans, qu'on sort de l'obscurité, de la marginalité, par une première biennale internationale des moins de 35 ans. Et donc, cette biennale, c'était André Malraux qui l'inaugurait. À ce moment-là, Malraux, qu'est-ce qu'il allait ? C'était le De Gaulle qui arrivait. Est-ce qu'il serait un militaire il était autoritaire parce qu'il était militaire, mais est-ce qu'il serait un républicain ? On pouvait se poser encore la question. Et Malraux, avec ses aventures militaires, on pouvait aussi penser que... Donc, moi, j'étais méfiant, mais la phrase que Malraux disait, c'était « L'État n'a pas à conduire et à donner des... conseil aux artistes, il a à les observer. C'était une phrase dite par un ministre à la fin du 19e siècle. Il n'y avait rien d'original dans ce que disait Malraux. Donc, on se posait quand même des questions parce qu'on avait la guerre d'Algérie qui était dure, etc. Et finalement, Malraux a été très très ouvert. Il a aidé aussi bien un type comme Le Corbusier qui était plus autoritaire et moins souple que nous, la lacération. Et quand il y a eu l'inauguration de cette biennale, il a été consciencieux, il a regardé tous les tableaux, il disait un mot, il a été très ouvert.
Laura Neve, vous dites lacération, moi j'ai dit arrachage, lacération 1949. Nous sommes presque au cœur du mouvement Cobra. Il y aurait-il apparentement entre cette idée de jeu, d'arrachage, de détournement, de destruction avec les préoccupations de ce groupe?
Les affiches lacérées et la démarche de Villiers s'inscrit justement un peu en contradiction avec la démarche de Cobra. Chez Jacques Villiers, il y a vraiment une volonté de capter le réel, de lier l'art et la vie, mais avec une neutralité. Il se considère lui-même comme un archéologue qui aurait ramassé ses affiches et donc ses traces de l'évolution de la société contemporaine.
Mais je reviens à votre démarche archéologue, mais aussi sociologique.
Vous voyez, quand je prenais des affiches, il y en avait de droite et de gauche, mais on ne pouvait pas savoir ce que j'en pensais. Je prenais les choses, mais je faisais en sorte que, si c'était le visage d'un homme politique, qu'il y ait, qu'on le devine. Mais pour que l'image ne s'impose pas, si je lui faisais de la publicité, on pouvait le reconnaître, on pouvait reconnaître les mots d'ordre, mais on devait les deviner, les rechercher. C'est pas la même chose que imposer une idée. Il fallait que quelqu'un de droite ou de gauche puisse regarder ça sans penser politique, mais simplement souvenir de ce qui se passait.
Il a même créé un personnage fictif qu'il appelle le lacéré anonyme en 1959, auquel il attribue la paternité de ses œuvres. Donc, selon lui, il serait juste le collecteur, presque un historien de l'espace urbain. Il deviendrait un conservateur de la mémoire, en fait, de cette société.
À cette époque-là, c'était la période abstraite. Les peintres n'existaient plus. C'est très différent de maintenant. On est dans l'éclectisme complet. Moi, je n'étais pas éclectique, mais maintenant que l'éclectisme est complet, je tendrai à être éclectique parce qu'il faut être de son époque. Il faut la regarder. Et notre époque est en train de rechercher une manière de se personnaliser. Et vous voyez, tous les peintres, il y en a des figuratifs, des peintres abstraits froids, des chauds, des expressionnistes et tout. À l'heure actuelle, il y a une exposition Dada ici. La seule chose que je ne comprenais pas, c'est qu'on disait qu'ils étaient contre les expressionnistes. Mais c'était contre les expressionnistes défaitistes, ceux qui se suicidaient. Ils étaient pour la vie. Dada, c'était la liberté complète. Vous faites vos théories pour vous-même, mais vous ne les imposez pas aux autres. L'affiche, c'est ça. C'est, on parle de tout, de la gauche, de la droite, des curés, des anti-curés, mais on ne sait pas.
Je crois, on risque de me tromper, mais je pense qu'il est vraiment un pionnier dans cette démarche-là. Il y avait les collagistes, mais justement, là, il fait la démarche inverse. Duchamp, lui, a dépersonnalisé aussi le rôle de l'artiste, mais en mettant vraiment en question le statut de l'art. Jacques Villiers, lui, déprofessionnalise la figure de l'artiste, mais avec un résultat artistique qui est toujours présent. Il est, je pense, un des premiers à avoir travaillé sur cette idée-là.
À chacun de faire sa philosophie en regardant le tableau.
Jean-Marc Etier.
Une galerie dans mon centre de coiffure pour mes 24 ans et pour mes 30 ans, j'ai créé ma maison d'édition qui s'appelle La Pierre d'Alain. Et puis entre-temps, elle s'est étoffée avec La Petite Pierre, Pierre d'Angle et Haute Pierre. Et donc, il se passe par le plus grand des hasards, si du hasard existe. J'ai eu la chance de partager l'amitié avec Patricia Newcombe, qui est secrétaire d'Antonio Segui, avec qui je travaille depuis plus d'une trentaine d'années. Le nom de Jacques Villiers
est arrivée et elle m'a dit, tiens, est-ce que tu voudrais faire quelque chose avec... Je dis oui, bien entendu, mais bon, moi je n'ai jamais osé l'approcher. Et donc ça ne fait rien, je vais te présenter. Et donc c'est comme ça que les choses ont commencé. Et il se passe que dans la collection La Petite Pierre, j'essaye, tant bien que mal, parce que ce n'est pas toujours évident, de demander aux artistes quelles sont les phrases... Parce que souvent, la peinture est souvent liée à la littérature, ou en tout cas à quelque chose qui a été entendu, même si ça n'a pas été lu, il y a quelque chose d'empirique. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel est le moteur qui amène à construire une œuvre sur le temps. Et je pense que... on a beau être autonome, je pense qu'on doit toujours quelque chose à quelqu'un, en tout cas pour le transformer, pour aller plus loin. Je crois qu'il faut toujours dépasser son maître. Et donc, je lui ai posé la question, j'aimerais bien savoir quelles sont les phrases qui vous ont construites. Et bon, ben, c'est quand même quelqu'un qui a 92 ans, 92 pour les autres. Et je pense que c'est un exercice auquel il n'avait jamais pensé, ou personne ne lui avait posé la question.
Vous dites archéologue, cherche-t-il du sens derrière les images lacérées ?
Il cherche vraiment du sens, ça fait vraiment partie de sa démarche. Il dit, voilà, le fait d'avoir créé ce personnage fictif, ce personnage imaginaire qu'il appelle le lacéré anonyme, lui permet de ne pas trop faire intervenir ses goûts personnels dans le choix de l'affiche. Il cherche vraiment des éléments porteurs de sens, que c'est un impact politique ou autre. Bien sûr, il y a toujours une sensibilité artistique qui se dévoile. Un certain nombre d'affiches qui ont plus un caractère abstrait. Donc voilà, il a bien entendu des goûts personnels qu'on ressent. Mais dans sa démarche première, c'est cette idée-là. Contrairement à Raymond Hinze, justement, qui lui retravaillait plus les affiches, plus comme un produit plastique, comme un objet artistique en soi.
Il s'est attelé à un personnage, qui est Camille Briand, qui était poète, qu'il a rencontré, et justement cette exposition actuelle et la sortie de ce livre correspond à un anniversaire. Ça fait 70 ans lors de leur première rencontre, 70 pour d'autres jours, et voilà. Et c'est un très bel hommage. Et ce qui m'intéressait aussi, ce n'était pas du texte uniquement dactylographié. Ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il a créé, en tout cas, ou mis au point un alphabet qui, pour moi, en tant qu'éditeur, je trouve que c'est toujours très agréable de découvrir un nouvel alphabet. Et son alphabet, c'est sociopolitique, avec une quantité de symboles que nous connaissons.
Cette affiche-ci est assez intéressante parce qu'elle a été réalisée à Anvers. Jacques Villiglet a plusieurs fois exposé en Belgique, et notamment à Anvers, à la galerie Michiel Schweizer. En 82, et probablement à cette occasion-là, il a arraché quelques affiches, dont celle-ci, qui s'appelle Michael Steinweg, et voilà, qui du coup sort un peu de sa production habituelle, plutôt liée à Paris. Déjà à partir des années 80, et particulièrement à partir des années 90, Paris devient moins son lieu de collecte, parce que les affiches lacérées sont de plus en plus rares à trouver, l'affichage sauvage devient de plus en plus rare, et donc il va se diriger vers d'autres villes de province en France, et il créera en 97 l'atelier d'Aquitaine, qui est un atelier mobile qui se déplace en France, dans le sud de la France, à la recherche d'affiches lacérées.
Espace comme monstration, espace comme atelier. Empreinte, jusqu'au 10 février, au Botanique à Bruxelles, Ernest Pignon Ernest. Avec André Siegel et Ernest Pignon Ernest.
Et puis aussi un peu de modérer l'envie de montrer plein de choses, parce que sinon, une expo comme ici, où il y a à peu près 220 pièces, on pourrait en mettre 250, 260 sans problème. Je suis là aussi pour un peu freiner cette envie de montrer, parce que je pense que on pourrait montrer, comme je vous dis, il a des dizaines et des dizaines de dessins, et on est obligé de limiter. Donc je suis là aussi un peu pour limiter. Et après, il y a tout l'éclairage, toute la partie technique pour le montage d'une expo.
Espace comme atelier, à la Galerie Patrick de Rome à Bruxelles, jusqu'au 9 février, Jacques Villeglé. Les murs ont la parole. Avec Laura Neve, Jean Marchetti et Jacques Villeglé.
À chacun de faire sa philosophie en regardant le tableau.
Le Monde Invisible est une émission de Thierry Genicot. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.